Jules Janin, Gaspard Hauser. On se plaint de la stérilité fécondité des auteurs. Il vous vient des livres de ci, de là, de partout. Vous avez déjà trop de romans, on va donc vous en donner de nouveaux. Il y a chronique sur chronique, en conséquence on en compose de plus belles. Du drame vous n'en voulez plus, du vaudeville vous n'en faites qu'un, hélas! De la littérature quelconque, vous ne voulez pas vous baisser pour en prendre. Or, sus, voilà des drames, voilà des vaudevilles, et pour de la littérature qui ne soit que de la littérature en général, en voici et en voilà. Mais qu'est-ce à dire, messieurs les auteurs? Vous moquez-vous de moi, public? Compteriez-vous sur moi? Me prenez-vous pour dupe de vous, pour dupe de moi, pour dupe de qui Dieu voudra? Je le sais, si le public parle ainsi, sa voix est si facile à couvrir. Il lui faut, comme à toutes les autres, pour être entendu, du silence, du près, de loin. Et vous savez du reste, si la voix publique ne peut se promettre quelque chose, peu de silence aujourd'hui où rien ne demeure à sa place. N'en déplaise à bien des gens, à tout le monde peut-être, nulle part la multitude ne se fait entendre. Elle a trop d'écho pour ne pas se taire. Elle les laisse retentir de son tel quel. Elle se tient dans sa sombre muette majesté. Les signes visibles dont elle suspend l'image, elle les tourne tristement en surcroît de vie intérieure. Elle se souvient, elle prévoit, elle écoute. Elle attend rien que cela. Dans ces jours de malaise où la peur est la seule providence connue, dans notre France, qui n'est ni debout ni assise, mais bizarrement accroupie, soit pour s'étendre bientôt à plat, soit pour mieux s'assurer du secret de son élan, dans votre Paris à vous, peuples et rois de l'Europe, qu'il fait et refait à son insu, il ferait beau voir une chose dont personne n'a eu l'idée et qui a dû peut-être s'exécuter unanimement, pour qu'il fût donné à un homme, à un seul, moins que cela à moi, écrivain inconnu, et déjà fatigué pourtant de souhaiter quelque chose, arriva. Ce vœu si naturel et si simple, et par de là même si longtemps ignoré de celui qui le forme, c'est de savoir si l'opinion publique, en littérature comme en tout le reste, avoue ses interprètes. Nous qui sommes n'importe quoi, c'est-à-dire vous qui êtes ce qu'il vous plaît, sommes-nous de l'avis de ceux qui parlent pour nous? C'est quelque chose que cette question, j'espère. S'il vous paraît vague comme ce qui touche à tout, ne vous hâtez pas de répondre oui ou de répondre non. Ne vous hâtez pas de douter même. Ceci regarde tous les départements de l'esprit humain. Mon avis est que bien des gens, y compris vous et moi, ont perdu, sans savoir comment et en toute conscience, l'habitude de penser ce qu'ils disent et de dire ce qu'ils pensent, en sorte que vous avez sur moi un droit que je prends sur vous. Vous pouvez me prier de me taire pour mieux écouter ce que j'ai à vous dire de vrai. Grand et noble précepte, sujet éternel de méditation, digne peu s'en faut, de me faire prolonger la digression de mon début, digne de vous dédommager de l'ignorance où je vous laisserai, d'ici à je ne sais quelle page de la nature précise de mon récit et de l'intérêt que ce récit aurait pour vous. Cette histoire que je veux vous faire, ou plutôt vous refaire, avec les matériaux épars que j'ai rassemblés, c'est l'histoire de Gaspard Hauser, ce jeune homme exposé dans la ville de Nuremberg à l'âge de 18 ans, et qui, à 18 ans, était aussi ignorant de toutes les choses de la vie que l'enfant qui vient de naître. Homme au maillot, intelligence à la lisière, perpétuel bégaiement, tâtonnement sans fin, intelligence au-dessous de l'instinct. C'est là un roman purement psychologique, entièrement dégagé d'aventures merveilleuses. Et quoi, en effet, de plus merveilleux que cette aventure? Un homme enfant. Un homme qui ne sait ni marcher, ni entendre, ni voir, ni comprendre, ni sentir, ni aimer ce qui est fait à notre image. Cependant, voilà bien ce que j'ai vu de mieux, moi, dans cette histoire. Après cela, que vous importe de savoir de qui Gaspard Hauser était fils et par quelle raison il avait été exposé ainsi, ce pauvre enfant? Que vous importe tout cela, et à moi donc. Je vous prie donc d'être indulgent pour cet essai d'un nouveau genre, pour ce nouvel essai de pensée et de style, dans lequel j'entre en tremblant et qui probablement ne me réussira pas. Gaspard Hauser n'est pas la première chose venue, il n'est pas le premier homme venu. Il s'agit ici de tout l'homme, par conséquent de tout l'univers et par conséquent de tous les siècles. L'histoire dont je vous dois le récit réveille les pensées sociales, élève à l'honneur du doute des besoins effrontément universels, remet en question l'art, la nature, le cœur, la vie, les vœux de l'âme et des sens. Gaspard Hauser, quel spectacle que celui d'une intelligence naissant longtemps après elle-même, gardant sous l'œil de Dieu seul l'unité si fixe de ses fonctions pour l'épandre un jour en une variété d'idées, de mouvements, de vouloirs qui rendra saillante pour nous-mêmes la richesse de la vie morale restée jusqu'ici visible à celui-là seul qui a tout fait. Le monde extérieur nous prend la meilleure part de nous-mêmes. Immortels et périssables que nous sommes, nous donnons presque tout au présent, cet éternel mensonge de l'avenir. Le présent nous tient de court, tout en satisfaisant par son vague réel à ce désir d'immensité qui nous agite, en nous tranquillisant. Insensés que nous sommes, nous attribuons au sens qui appartient à l'âme. Le regard, c'est l'âme, l'ouïe, c'est l'âme. L'âme a un langage qui est à elle, elle se parle et elle se répond à elle-même, sans que ce dialogue sublime qui se passe en nous nous rende attentifs et fiers. Le siège de la vie est un sanctuaire. Là, tout est mystère, parce que tout est beauté. Mais nous aimons les portiques, les frontispices, les fantaisies de l'art. Nous prenons d'une chose tout ce qui n'est pas d'elle. Nous sommes de grands philosophes, voyez-vous. Cependant, philosophes, publicistes, peintres, poètes, qui que nous soyons, il n'est pas que la dignité de l'homme ne nous frappe quelquefois. Et s'il nous prend envie de bien voir ce que c'est qu'un homme, ce ne sera pas dans l'étal d'un amphithéâtre, à coup sûr. Ce qui disparaît de l'homme n'était pas l'homme. Arrière donc notre poussière, allons grand, au vrai, au durable, et n'ayons pas peur de vouloir plus qu'on ne prétend. Appartenir à l'animal d'aussi loin que possible, toucher la terre comme un point de départ, reculer quelque peu vers la sourde toute grandeur, est-ce donc là être aussi rétrograde? Quand bien même nous perdrions à cela un peu de positif, voyez donc le grand malheur. Gaspard Hauser est un beau sujet d'étude, mais avant de le produire en scène, il est bon de préparer le lecteur. Vous me direz, mais pourquoi donc? Montrez votre homme d'abord, qu'il agisse et qu'il parle tout de suite et qu'il nous débarrasse de vous. Ah, si c'est là votre dernière volonté, lecteur, il faut bien vous obéir. J'ai beau vous dire que je n'ai pas d'histoire à vous raconter, vous voulez que j'arrive à mon histoire? Vous me trouvez bien lent, j'imagine. Pour ma part, je vous trouve bien pressé. Moi, je tenais beaucoup à ce pauvre Gaspard Hauser avec lequel vous voulez vous amuser un quart d'heure. J'aime Gaspard Hauser. Ce héros si monotone en apparence, c'est mon bien et je vous l'envie. Le plaisir douloureux avec lequel j'ai suivi les développements si lents de son intelligence, c'est encore ma propriété et je vous la dispute. Et n'est-ce rien, je vous prie, qu'une pensée chèrement nourrie? Voulez-vous qu'un artiste vous livre ses rêves, ses doutes, ses éclairs sur le champ comme un insignifiant bonjour qui se jette au premier venu et sans donner un regret à leur mystère? Ils seront donc toujours là, nous autres conteurs occupés à sauver notre tête comme la sultane des mille et une nuits, et toujours tremblant de faire notre compte ou trop long ou trop court. Non, pas, cela n'est pas possible. Il faut un peu de liberté, même à celui qui est venu pour vous amuser et pour vous distraire. Il faut un peu d'indulgence, même à vous, sultan, son juge et son bourreau, qui avait résolu de lui faire couper la tête. Ici finit la longue préface de mon récit à venir, qui, j'espère, sera très court. Cette histoire demandait d'ailleurs une préparation quelconque. Le sujet en est étrange, vous le verrez bien, et quelque ménager que puisse être l'exposition, le récit pourrait encore vous paraître abrupt. Il est au-delà de l'imagination. Il fallait, pour vous introduire dans cette région nouvelle, traverser bien des espaces, hasarder plus d'un pas, s'exposer à se perdre pour vous guider. Nous avons à ce sujet deux choses à voir. Gaspard Hauser jeté avec une âme nue, avec des organes neufs au milieu du monde réel. Gaspard Hauser resté enfant jusqu'à l'heure d'être homme, nous servira de reflet pour ce que l'habitude nous rend comme non avenu. Et d'un autre côté, il sera lui-même un spectacle. Il nous fera pénétrer, peut-être, le mystère moral et physique de notre être, que l'on croit comprendre parce qu'on n'en est pas tourmenté. Cette fois, nous serons confondus, moins encore de notre ignorance que de l'idée de ne l'avoir pas soupçonné. Enfants que nous sommes, quand nous avons dit « ceci est naturel », nous croyons avoir compris ce mot parce qu'il est le dernier de tous. C'est au contraire, alors, que nous sommes moins près de comprendre ce qui se passe. Témoin Gaspard, par lui, nous verrons à quoi se réduisent nos illusions. Son instinct, plus fécond que notre raison en plein rapport, nous dira merveilleusement combien nous sommes pitoyables. Homme de la nature et de la vérité, il jugera nos mœurs, nos arts, nos sciences. Ce sera plaisir de voir si ceux qui se donnent dans cela pour organes de l'homme ont compris peu ou beaucoup ses besoins originels et le vrai sens, ce qui se passe en son âme. Nous saurons s'ils ont mission pour faire parler la foule ou pour la représenter jamais. Elle qui a, comme Gaspard Hauser, comme tout ce qui est enfant dans le monde, peu de paroles parce qu'elle a peu d'erreurs, quelque chose de surhumain dans ses vœux, parce qu'elle garde de son mieux quelque enfance et médiocrement de goût pour ce qu'on appelle les belles créations, grâce à ce précieux oubli où nous la laissons tous, en criant à tout ce qui n'est pas elle, que c'est à elle que nous voulons parler. Tous les jours, nos Allemands ont parlé de Gaspard Hauser. Ce jeune homme fut exposé en 1828, au milieu de Nuremberg, sans qu'on sût par qui. Un habitant de la ville le trouva à sa porte. Il le questionna, l'examina, lui témoigna cet intérêt qu'inspire un inconnu embarrassé de sa personne, mais il ne put rien en tirer. Cet homme, prenant cet étranger pour ce qu'il voulut, le remit entre les mains de la police pour plus ample informer. Gaspard Hauser, on l'apprit bientôt, était un malheureux grandi physiquement dans l'enfance de la pensée. Quelle que fût la cause de cet état, personne ne douta de sa réalité. On se mit en devoir non plus de reconnaître si c'était de sa part quelque amère mystification, ou même une stupidité proprement dite, mais d'éclairer au nom de l'humanité l'obscur et terrible moyen par lequel son intelligence souvent frappante et ses facultés de toute nature, qu'on ne put longtemps méconnaître, avait été suspendu si miraculeusement pendant des années entières. Les journaux allemands firent là-dessus des conjectures qui ne nous regardent guère puisque nous ne faisons pas un roman. Ces conjectures avaient à Nuremberg l'intérêt de médisances ou de calomnies indigènes. La famille de l'inconnu était traitée, on devine comment, par la curiosité locale. Ce qui nous touche, ce n'est pas la justesse ou l'invraisemblance de ces conjectures, mais bien le personnage qui les fit naître. Gaspard Hauser est assez intéressant par lui-même. Un homme jeté au milieu des hommes, sans rien avoir de social. Une âme qui n'a jamais pensé, senti, voulu à notre manière. Des organes étrangers à nos impressions, ignorant la lumière, le son, les distances, la vie intérieure. Mais quel miracle! Nous avons bien assez de cette étude sans en faire même un roman de mœurs. Donc, pour tout devoir, nous prendrons Gaspard Hauser comme il s'est montré et nous le conduirons à l'état où il est parvenu par tous les degrés qui séparent la végétation de la vie morale. Parmi les précieuses remarques dont il a été l'objet, nous choisissons les plus caractéristiques. Empêchés que nous sommes de traiter à notre satiété une matière qui demanderait des volumes. S'il est vrai que toutefois, qu'après des volumes, on puisse croire qu'on en a peint notre nature. Lorsque Gaspard Hauser fut soumis à un examen calme et serein, on s'aperçut bientôt d'un étrange phénomène. Ce jeune homme, selon l'expression qu'il employa plus tard, n'était venu au monde qu'au moment où il avait paru parmi les hommes. Pensée, parole, regard, tout en lui travaillait à naître. Ses facultés physiques, comme ses facultés morales, avaient été jusqu'alors comme n'étant pas. Ce n'était pas l'homme sauvage avec la stérilité de son âme, mais aussi avec la perfection de ses sens. Ce n'est pas la nature morale absorbée dans la nature physique. Dans Gaspard, tout était ébauché, quoique le temps n'eût pas manqué au développement de son être. Avec la taille et la proportion de l'adolescence, il avait tout ce qui constitue l'enfant. Les mouvements n'avaient pas de direction. Il ne connaissait pas les distances. La lumière offensait sa vue, et loin de lui révéler la présence des objets, les jetait devant lui dans un pêle-mêle effrayant. La curiosité publique avait fait de lui ce qu'elle avait pu. On avait retourné Gaspard, on l'avait regardé en tous sens, on avait voulu faire des expériences sur cet enfant de 6 pieds, et de tout cela, il ne serait pas résulté grand-chose. Peut-être même le pauvre jeune homme serait-il tombé de son état animal dans un pire état encore, si le bon sens et l'humanité des magistrats n'eussent sauvé cette intelligence si attardée en la dérobant à la niaiserie acquise et mise en double du public proprement dit. Après la première surprise causée par l'apparition de Gaspard, on se rendit compte de ce qu'on éprouvait à sa vue, et on remarqua surtout une chose, c'est que ce jeune homme présentait comme 2 êtres. À la première vue, on le jugeait imbécile et frappé de nullité dans ses organes aussi bien que dans sa nature morale. On ne voyait en lui qu'un essai du Créateur, une inexplicable ironie dans la distribution de ses dons. Gaspard, alors, n'inspirait que cet intérêt court et maladif, cette attention tournée en remords qu'on éprouve devant un être qui ne vous comprend pas. Il y avait là une sorte de douleur, non pas nerveuse, comme on s'exprime souvent sans avoir rien à dire, mais intellectuelle, mais sociale, mais artiste. Voir Gaspard, c'était se rappeler tout ce qui n'était pas lui, entendre ce qui lui tenait lieu de parole, suivre le mouvement de cette âme qui tombait de repos en repos, étudier le maintien, le geste, la démarche de Gaspard. C'était comprendre, par le contraste, une vérité presque ignorée à force d'être connue. C'était contempler face à face l'immense et plus qu'immense avantage pour l'homme d'être au milieu de ses semblables. Gaspard fut un sujet d'étude pour tous les penseurs. Ce qui lui manquait était seulement la vie sociale. Quand il aurait appris à imiter nos mouvements, à redire nos paroles, à sentir, à vouloir, à penser comme nous, n'y aurait-il plus rien à faire de cet homme enfant? En un mot, pouvait-on lui souhaiter de nous ressembler en tout? La question était grave. On la posa peut-être, car les soins dont on entoura Gaspard indiquent dans ses protecteurs du sens et de l'observation, quoique les choses aient été un peu précipitées. Au reste, Gaspard n'était pas facile à juger. À travers l'obscurité de son état, on démêlait plusieurs particularités étranges. Il restait habituellement anéanti, insensible à tout, demi-mort à tout ce qui réveille et touche les hommes. Mais cette stupeur n'était pas la stupidité. Seulement, il se faisait dans cette âme une nuit et un silence incompréhensibles. Ni le bruit, ni le mouvement, ni la diversité de spectacle ne le tiraient de son engourdissement. Rien ne vivait en lui. Une chose fut bientôt reconnue. Gaspard n'avait pas été plus disgracié par la nature que le vulgaire des hommes, et l'absence de toute influence expliquait seule sa manière d'être. Loin d'être inhabile à ce qui occupe les organes et l'intelligence de l'homme, Gaspard avait une finesse, une profondeur d'aptitude qui, par son excès même, équivalait à une impuissance vigoureuse. Il vivait dans un étourdissement plein d'angoisse. La lumière, au lieu de l'animer et de le distraire, agissait sur lui comme par masse. Il en était heurté, ébranlé, mis hors de lui. Son œil discernait tout dans la nuit la plus profonde. Une toile d'araignée, que vous n'eussiez pas distinguée en plein jour, était vue de Gaspard dans l'obscurité. Il en aurait compté les moindres fils et indiqué l'épaisseur, si la parole et la pensée avaient accompagné en lui l'impression physique. Dans le jour, il semblait perdre la vue. Frappé à la fois de tous les rayons, il était accablé d'un ensemble dont les détails lui échappaient. Il voyait tout quand il fallait voir quelque chose. Ce n'était pas un arbre, une maison, un tableau, un filet lumineux, mais à la fois et sans analyse, un labyrinthe de lignes, un entassement redoublé de formes, une affluence irrésistible de splendeur. Il s'y perdait, il n'en pouvait plus, il demandait grâce au soleil. Son ouïe n'était pas moins parfaite que sa vue. D'abord, on ne s'en était pas douté. Assourdi par des sons de toute nature, il avait entendu comme n'entendant pas. Autour de lui, on parlait, on marchait, on produisait mille sortes de bruits. Rien n'y faisait. Gaspard n'avait pas vécu parmi les hommes. Il ignorait la valeur des sons. Il ne distinguait point le pas du claquement des mains. Il aurait pris la voix humaine pour le sifflement du vent. Pendant longtemps, il agit comme un homme frappé de surdité. La finesse extrême de son ouïe changeait pour lui l'effet du son, comme la délicatesse de son œil dénaturait l'impression de la lumière. L'impuissance où il était de démêler les sons les rendait tous égaux par le fait. Occupé machinalement, comme un enfant de 2 ou 3 ans avec un jouet, il restait insensible au bavardage des curieux, au fracas qu'on produisait de toute manière pour essayer de le distraire, à la musique, au son des cloches, au retentissement du tonnerre, à tout ce qui était bruit en dehors de lui. Dans cette question de la sociabilité, si souvent remuée par le dernier siècle, il y aurait un point neuf et curieux. Je ne sache personne qui s'y soit attaché, personne surtout qui en soupçonne l'importance. Ce serait de savoir, indépendamment de l'étude de la parole, quel est le rapport des sons avec le perfectionnement de l'homme. Chacun de nos sens est nécessaire aux autres. L'oreille a sa vue, a dit un grand écrivain. Le toucher a son ouïe, l'œil a son goût. Nos organes empiètent les uns sur les autres. L'homme est trop savamment composé pour n'être pas harmonique, pour manquer de cette unité tant aimée des esprits supérieurs, tant contestée dans les œuvres d'art et tant négligée dans notre 19e siècle. On a remarqué que les animaux ne voyaient pas comme nous les couleurs, les formes et les proportions. Leur ouïe doit offrir les mêmes différences. Pour l'homme, tout a une signification. La diversité des sons, qui a ses règles et son but, doit tendre dans les vues du Créateur, à lier, par des rapports spéciaux, une foule de choses que leur confusion rendrait inutiles ou fâcheuses. Gaspard en offrit un exemple. D'abord, avons-nous dit, dans chaque bruit, il entendait mille bruits, comme dans chaque nuance, il voyait d'innombrables couleurs, comme dans chaque mouvement, il rassemblait toute une succession de mouvements. Ces impressions si tumultueuses ne l'étaient pourtant pas plus que les idées qu'on se formait de Gaspard. On ne se rendait compte de rien. On le regardait, on l'écoutait, et on rêvait. On aurait pu mieux faire. Son état révélait le nôtre, de même que le silence cédait au souvenir d'une mélodie et la fait renaître plus vivante et plus vraie. De même que l'obscurité éveille l'imagination, la repeuple de fleurs, d'oiseaux, de beaux fleuves, et les crée presque mieux que l'auteur de toutes choses. À la vue de Gaspard, que l'écroulement du ciel n'eût pas fait tressaillir, on se figurait la prodigieuse puissance des sons sur notre organisation et notre intelligence. Parlez-nous des sons pour prouver l'âme humaine. La vie se manifeste à nous dans leur infinie variété, depuis le gazouillement du chardonneret jusqu'au rugissement du lion, depuis le murmure du ruisseau jusqu'au sombre immense grondement des mers, depuis l'archet de Paganini jusqu'au canon de Bonaparte. Il y a certes une belle échelle d'idées à remonter ou à redescendre. Ce serait plaisir d'y voir un homme de génie, un de ces envoyés d'en haut, qui nous dispense le vrai avec ou sans mesure, un Weber, un Mozart, un Beethoven, nous dire si le langage de leur art daignait devenir de la parole, nous raconter, chacun avec ses mille âmes à lui, nous dévoiler, autant qu'il le pourrait ou l'oserait, les merveilles de cette région où ils vont puiser sans mesure et sans fin. Ce serait là, j'espère, une belle et religieuse leçon. Elle expliquerait une chose qu'on veut avoir comprise. Cette sympathie, cet éternel esprit de famille qui va au-devant des grands musiciens. On verrait là non plus seulement une réunion pour le naturel, mais une loi sociale aussi profonde qu'oubliée. L'homme y apparaîtrait comme l'écho de tous les langages qui se parlent dans la nature. Bruit léger, sifflement, mugissement, solennité de la tempête, tout viendrait dans la pensée de l'observateur concourir à former un des mondes qui remplissent le monde plus grand que de l'âme humaine et y enchaîner par de nouveaux liens ces êtres innombrables qui sont faits pour elle, afin que rien n'échappât à sa prise. Auteur de Fidelio, c'est à toi que cela était possible. L'univers te cachait peu de choses. Grand cœur, toutes les voix nées pour émouvoir te parlaient d'abord, si elles n'étaient pas tes propres réponses. Imagination fécondante, tu comprenais et les cris du ciel, et les murmures de la terre, et les silences de l'homme ou de Dieu. Négligeant intelligence souveraine, tu prenais sur le fait la sagesse créatrice et l'ordre et les rapports et les générations de vérité qui ne luisent pas pour nous. Tu les tirais d'une immense nuit que l'Europe ne saura pas refaire malgré tous ses aveugles efforts. L'indifférence de Gaspard pour les merveilles du monde invisible en relevait le prix pour ceux qui les goûtaient. À son occasion, on faisait un retour sur soi-même. Et des vérités inconnues jusque-là ou jugées trop simples pour être étudiées prenaient un caractère de douceur ou de noblesse à la vue de ce faible enfant de 20 ans, inaccessible à tant de choses, dépourvu de la précieuse faculté de les rassembler et de les convertir en éléments de vie morale. Cette mort partielle de Gaspard, ce tombeau d'intelligence, nous inspirait quelque chose d'amèrement religieux. Vous vous sentiez pleurer sans qu'il coulât une larme de vos yeux. À la vue de ce jeune homme dont l'âme nue et glacée avait si longtemps attendu la vie, un inexprimable mélange de sensations diverses vous relevait vers le ciel et vous recourbait vers la terre en même temps. Alors vous ne saviez plus lequel entendre, étonné que vous étiez de tant de bonheur. Alors, dans votre reconnaissant enthousiasme, vous nommiez, comme il vous plaisait, la Providence. Vous l'accusiez magnifiquement de la disgrâce d'une créature, et vous l'accusiez plus noblement encore de vous avoir favorisé sans bornes. La tournure pieuse et musicale du caractère allemand devait faire naître ses pensées dans les protecteurs de Gaspard. Il n'y a point de pays où l'âme comprenne mieux l'harmonie. Pour qui a vu les Alliés à Paris, il y a un fait merveilleux. C'est l'accord franc, c'est l'intimité de commerce, c'est la société d'esprit et de cœur qui régnait dans ces innombrables masses pour l'exécution des nationaux. Les régiments allemands n'étaient qu'un seul homme. Leur intelligence en ce point, ce don si merveilleux de se servir d'un coup l'un à l'autre, d'exprimer et de comprendre à un degré inouï les passions qui sont la vie et l'honneur d'une armée. Cette fraternité toute surhumaine était certes un trait de physionomie morale, et un esprit supérieur y aurait pu voir de haut la différence de leur génie militaire avec le nôtre. S'ils sont tant de pouvoir sur l'âme humaine, s'ils y répandent tant d'idées et de sensations, quel dénuement pour Gaspard que leur absence complète, quel sommeil moral, quel fade milieu entre l'existence intellectuelle et la végétation. La physionomie de Gaspard peignait fort bien cet indicible état. Son regard était vague et, quand il se fixait quelque peu, il y avait dans sa limpidité je ne sais quoi de trop immobile. On n'y découvrait point d'expression. Ce n'était rien qui arrivât de l'âme, pas de variété, de signification, pas de succession, de vouloir, pas d'annonce de quelque chose d'intérieur qui eût précédé ou qui dût suivre ce regard. Dans cet œil, frappé de rayons visuels comme celui du premier animal, vous cherchiez vainement un de ces innombrables langages que l'homme sait parler. Par moments, il vous semblait que Gaspard allait s'émouvoir. Le son guttural et inintelligible qui lui tenait lieu de voix venait à s'assouplir. Des inflexions douteuses et posées involontairement, succédant à des mouvements qu'on prenait pour de la joie ou de la tendresse, vous portaient à croire qu'il se passait quelque chose dans Gaspard. Des objets riants présentés à sa vue, des physionomies belles et bonnes, des couleurs de son goût, l'avaient un moment tiré de son insouciance et son regard allait traduire ce commencement de réveil. Il n'en était rien, hélas. C'était un grave et triste spectacle. Un homme au milieu des hommes, étranger à ses semblables, indifférent à leurs avantages, ignorant ce qui lui manque, et dans cette impuissance de les comprendre, ne s'apercevant même pas qu'il est à son tour une énigme. L'état de son intelligence se décelait donc par le regard. C'était bien le cas de dire que l'œil est le miroir de l'âme. On ne pouvait contempler Gaspard sans faire cette remarque et sans la faire dans toute son étendue. On se composait une histoire de tout ce qui serait arrivé si ce jeune homme eût su converser par le regard, à l'exemple des personnes qui l'entouraient. Les curieux, à l'aide surtout de leur silence, s'exprimaient pleinement dans ce langage refusé à Gaspard. Des coups d'œil significatifs, rapides, prolongés, humides et sombres, faisaient circuler autour de lui ces idées précisées, phénomènes de la pensée, qui naissent en nous du souvenir de ce que nous sommes. Les phénomènes de la pensée, si souvent mis dans l'ombre par notre étourderie et regardés comme peu curieux au prix de nos puérilités matérielles, ces beautés multipliées du règne des âmes, que leur affluence éternelle, bien plus que leur secret fait compter pour rien, resplendissaient puissamment et délicieusement dans le langage muet dont Gaspard était l'occasion. Autour de cette âme enfouie, qui bien même qu'elle eût trouvé un langage n'aurait pas eu d'écho dans ses organes, il se formait comme une couronne d'autres intelligences, réveillées par ce sommeil, étincelantes dans cette nuit profonde, reproduites chacune par toutes les autres dans ce concours d'idées, de tentatives, de bons désirs, qui les rapprochait de Gaspard et lui constituait une sorte de famille. C'était un beau spectacle et de part et d'autre très neuf en vérité. Gaspard excitait plus que la curiosité. Son état différait en tout de celui de l'homme social. Tout l'avantage qu'on avait sur lui, c'était d'avoir vécu avec d'autres. Quelques facultés qu'on étudiât en lui, on ne pouvait accuser la nature. On penchait même à croire qu'elle l'avait littéralement fourvu. Mais l'isolement avait presque tout annulé. Une foule de dons naturels qui échappent à l'estime parce qu'ils échappent à l'attention acquéraient tout leur prix dès qu'on se comparait à ce jeune homme. On se prenait à aimer les hommes, à les remercier profondément, à reconnaître la dignité de leurs conditions terrestres en découvrant par tout ce qui manquait à Gaspard la prodigieuse munificence avec laquelle la société traite ses membres les plus insignifiants. Grâce de l'enfance, éclat de la jeunesse, majesté de l'âge mûr, mouvement, attitude, pensée, manière d'être, tout cela devenait remarquable à la vue de Gaspard, et on était en voie de comprendre que l'homme ne serait rien s'il était livré à lui-même. Étranger à tout, indifférent à tout, mort à tout, Gaspard était pourtant le lien d'une foule de personnes. Il se formait autour de lui un concours moral assez semblable à cette association muette formée par des gens inconnus l'un à l'autre, à l'occasion d'une douleur à contempler ou d'un grand phénomène à comprendre. L'apparition de Gaspard au milieu des hommes avait d'abord été un événement et rien de plus. C'était une nouveauté, une chose impossible, un mystère plein d'intérêt. L'oisiveté des esprits a besoin d'aliments en Allemagne comme ailleurs, et on se félicitait de cette bonne fortune. Mais après ce plaisir banal, qui en fait de rareté s'accommode de ce qu'il y a de plus gai comme de ce qu'il y a de plus triste, pourvu que ce soit une rareté, il devait se faire quelque chose de mieux que des questions sur l'état de Gaspard. Il s'agissait de le rendre homme au risque de perdre ces occasions d'étonnement que nous cherchons tous et toujours, et de faire de cet enfant un être aussi complet, aussi admirable, aussi oublié que peut l'être le premier venu, qui n'a tout simplement, pour se recommander à l'attention générale, que les prodiges opérés en lui par le commerce de ses semblables. Pendant plusieurs mois, Gaspard resta plongé dans son enfance. Sa vie était toute physique. Seulement, de temps en temps, il tombait dans une sorte de rêverie, moitié animale, moitié intellectuelle, quand ses organes recevaient quelque impression. On pense bien qu'il n'était pas laissé à lui-même. C'était à qui éveillerait son engourdissement. La plupart de ses efforts étaient inutiles. Mais par moments, Gaspard semblait vouloir vivre à toute force. Malgré la confusion de ses signes extérieurs, on découvrait en lui un air de méditation, un recueillement de son titre, de son être aussi différent de la manière dont notre âme remplit ses fonctions que de la somnolence où Gaspard était ordinairement plongé. Mais son intelligence retombait bientôt sur elle-même. Impuissante à percer sa propre nuit, elle n'en venait pas même à souffrir de ce malheur. C'était pis que l'ignorance, puisque l'ignorance se connaît quelquefois. C'était moins que la curiosité, car la curiosité a son pouvoir et ses ressources, et elle est moins le commencement de la pensée que sa continuation. Gaspard n'était qu'une ébauche divine. Et il fallait qu'il fût entre les mains de l'homme pour développer ses qualités originelles, aussi bien que pour en reconnaître l'existence. Admirable prévoyance de la nature. En donnant à l'homme tout ce qui fait sa prééminence dans la création, pensée, parole, maintien royal, en lui faisant le cœur assez vaste pour contenir tour à tour et le ciel et l'enfer, elle n'a pas voulu que tout cela fût à part. Elle a mis pour condition à sa grandeur une alliance sous mille formes avec l'humanité entière. S'il a de belles et nobles proportions, c'est lorsque ce commerce l'a sauvé d'habitude mortelle pour la bonne grâce et la pureté des lignes. Si ses mouvements, sa physionomie, son regard d'être immortel répondent à tout ce que l'art cherche en lui, ne voyez-vous pas d'où il tient ce charme et sa puissance? N'a-t-il pas mêlé sa vie à la vie de tous? N'a-t-il pas pleuré sur vos douleurs? N'a-t-il pas ri de votre rire? N'a-t-il pas enfanté des idées dans votre âme ou laissé naître les vôtres dans la sienne? Avec vous, avec nous, il s'est assis près d'un berceau, il s'est incliné vers une tombe. Il a déployé en gestes, en attitudes, en mouvements incompréhensibles la grandeur, la multiplicité divine, l'harmonie qu'il porte dans son enveloppe mortelle. Quand Gaspard sortit intact des tentatives qu'on fit pour le former, et qu'on se fut décidé à rester là, le pauvre jeune homme parut condamné à vivre et à mourir dans sa stupidité. Bien des gens désespérèrent de lui. On avait fait tant de gentillesse, on avait mis tant d'esprit dans cette affaire. Femmes, enfants, savants, s'étaient donné tant de peine pour mener la chose à bien, qu'il fut dès lors convenu que Gaspard ne serait jamais que ce qu'il était. Heureusement pour lui, tout le monde ne fut pas assez si zélé ni si habile. Parmi les observateurs, il se trouva des gens qui ne se piquaient de rien, pas même de réussir mieux que les autres. Ils firent plus que d'essayer, ils attendirent. Au lieu de fatiguer Gaspard, ils s'efforcèrent de le comprendre. Ils se firent à peu près ce raisonnement très simple sur leur homme adoptif. Son existence, de matérielle qu'elle était, devait peu à peu se transformer et acquérir une à une les diverses parties qui composent la nôtre. Semblable à l'enfant, Gaspard, moitié entré dans la vie, moitié resté en deçà, devait subir la loi commune du développement. Son âge même, loin d'en faire abréger l'application, voulait qu'elle s'étendît encore. Exposé à toutes les impressions à la fois, il ne pouvait pas, comme l'enfant, arriver par un progrès calme et sans péril à l'emploi de ses facultés. Il pouvait d'ailleurs succomber dans leurs affranchissements unanimes. Ni le corps, ni l'âme, négligés si longtemps, ne suffiraient à leurs propres besoins s'ils se développaient tout à fait, tout à coup, et en même temps, l'un et l'autre. Cette vie disproportionnée eût été un meurtre. Tout cela fut compris, et Gaspard fut placé prudemment entre les deux existences qu'il devait échanger, entre une insensibilité qui n'avait rien de l'homme, mais qui laissait de l'espoir, et un réveil complet qui eût détruit jusqu'aux dons à venir en violant d'un seul coup sa longue paix. Une famille respectable, par une sorte d'adoption plus profonde que celle d'un enfant, se chargea de Gaspard. Il y avait, comme on voit en Gaspard, non seulement un être faible à protéger, un orphelin, entouré de parents, un enfant à préparer à être homme, mais encore une nature rebelle à se soumettre. Il fallait vaincre ce bonheur négatif et pourtant obstiné avec lequel Gaspard retombait dans la nullité de son état. À le voir si malheureux de cette bienveillance, on comprenait tout le crime de ses anciens persécuteurs. On ne maudit qu'à moitié le mal qu'on n'a pas à guérir. Délivré des importuns, Gaspard, à la faveur de ce repos, parut se remettre et jeter quelques lueurs d'intelligence. Jusque-là, des gémissements, des mouvements incertains avaient été ses seuls signes de vie. Tout ce qu'on avait compris de lui, c'est que rien ne l'intéressait au monde, et que l'espèce de tombeau où son cœur et son âme avaient dû passer tant d'années était la seule chose présente à sa pensée et chère à son cœur. Cette indifférence cessa par degrés. Tout d'abord, on remarqua en lui, comme chez les enfants, son goût pour les objets brillants. un jouet qu'il aimait beaucoup donna lieu à de précieuses observations. C'était un cheval de carton. Toutes ses pensées, tous ses soins se concentraient sur ce joujou. Au transport, aux larmes, aux caresses de Gaspard, quand on le lui présenta, on reconnut qu'il y attachait des souvenirs. On sut plus tard que dans sa longue détention, un objet de ce genre s'était trouvé sous sa main et que c'était un seul être qui n'eût jamais compté pour quelque chose. Dans la bouche de Gaspard, le mot « cheval » exprimait à peu près tout. C'était sa pensée fixe, son affection, sa vie. Incapable de s'occuper d'autre chose, il ne devait passer à de nouvelles idées, à des connaissances quelconques, qu'en suivant le cours de cette sorte d'amitié. Les personnes chargées de l'introduire dans la vie humaine reconnurent que, pour le tirer de cette immobilité de sensation, il fallait trouver le germe des nôtres. Elles sentirent que Gaspard, à l'exemple de tout homme, n'atteindrait un point qu'en partant de celui où il se trouvait. En un mot, loin d'apporter à cette âme tout ce que la leur possédait, elles crurent qu'il fallait se laisser éclairer, guider, redresser par les indications imparfaites et pourtant seules vraies que Gaspard donnerait à son insu. Cette discrétion fut récompensée. On vit bientôt que Gaspard, appartenant corps et âme à son joujou, étendait déjà le domaine de ses propres facultés en parcourant les rapports qu'il naissait de celui-là. Et Gaspard recevait des cadeaux de tout le monde. C'étaient des chevaux comme le sien, des papiers coloriés, des soldats de plomb et mille bagatelles de ce genre. Absorbé dans la contemplation de son cheval, il considérait les autres objets comme dépendants de ce premier objet, et par un progrès naturel, il en venait à les leur disposer autour de lui. L'idée de l'ordre, de l'harmonie, des convenances découlait déjà pour lui d'une prédilection d'enfant. Son existence avait été jusque-là qu'un point imperceptible, mais central. Elle allait déjà s'élargissant en cercle, grâce aux êtres qui venaient de donner prise à des facultés endormies, en attirant à eux la vie intérieure et comme non avenue en Gaspard. Il secouait déjà en partie sa pesanteur. Il subissait les lois d'une croissance particulière à mesure que multipliait les objets propres à faire famille avec ceux qu'il aimait. Son intelligence commençait à poindre. Le plaisir, la douleur, la réflexion, la direction des mouvements corporels prenaient en lui un caractère véritable et, malgré l'immense intervalle qui le séparait des autres hommes, on espérait fermement l'avènement de Gaspard à l'état social. Son imbécilité, inattaquable auparavant, présentait un côté ouvert, mais il fallait user sobrement de sa bonne volonté. Trop de leçons pouvaient éteindre son intelligence, trop de sentiments pouvaient comprimer son cœur. Si l'artiste qui a bien conçu son œuvre a des peurs sublimes quand il s'agit de l'enfanter, s'il est comme jaloux de lui-même et qu'avant de livrer à tous le don divin qu'il avait reçu lui seul, et pour lui seul peut-être, il se sente malheureux de laisser sortir de son âme ce qu'il n'a pourtant pas la force d'y garder, qu'on se figure les joies, les alarmes, le religieux orgueil d'un homme, d'une famille qui, vouée au plus noble des arts, à l'art de créer l'homme véritable dans ce qui n'est encore qu'une apparence, découvre enfin le premier rayon de la lumière qu'ils ont à dispenser. On a peint l'ivresse de la maternité, et celle-là, certes, à sa grandeur. Une créature imiter son auteur et donner la vie. Un être faible, craintif, modeste, s'élever au-dessus de tant de puissances humaines, autant que l'enfantement est au-dessus de la destruction, en sentir qu'il est beaucoup, qu'il peut beaucoup, parce qu'ici-bas ce règne n'éblouit personne. C'est bien noble et bien beau, mais une mère n'est qu'une mère. qui dira l'enfantement de l'âme, l'éveil de la pensée, la résurrection du cœur. Comptez le nombre de vies données à l'homme par son alliance avec les hommes. Mesurez l'espace alloué à ses conceptions quand il a reçu le pouvoir de les former. Contemplez-le tout entier, si votre regard peut faire tant à la fois. Contemplez-le agrandi par l'acquisition de nos manières d'être, atteignant tout ce qui n'est pas infini. Abrégeant l'immensité divine pour la déposer dans quelque partie de lui-même, puis la déroulant à travers la vie humaine. Oui, vraiment, oui, s'avisant d'exclure toute limite dès qu'il lui plaît d'espérer, de croire, d'aimer, de distribuer le bien et le mal, l'erreur et la vérité, la vie qu'il n'a déjà plus et l'immortalité qu'il n'a pas encore. C'est très noble et très beau, cela.